Vous écoutez Logosphère, l'émission de reportages et d'entretiens, de rencontres et de réflexions. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est Logosphère sur les ondes d'univers. Benjamin Collin, bonjour.
Et bonjour.
Benjamin Collin, vous êtes écrivain,
ouais.
Musicien aussi.
Merci.
Un de vos textes, qui s'intitule Urge, a été lu par la comédienne Gaëlle Hérouf de la compagnie La Ronde, ici même, à Bécherel, dans le cadre de la fête du livre. C'était un texte donc, qui s'appelle Urge, qui avait été déjà lu une première fois en 2014.
Ouais, en fait, elle ne l'a pas lu, elle l'a dit,
qu'elle
l'a appris. Et le truc dingue, c'est que bon, celui-là n'est pas si long, mais qu'en 2014, effectivement, elle a pris tout le bouquin. Truc bon, assez barjot. Hein. Et voilà, donc elle l'a dit hier, dans un cadre assez intimiste, une toute petite pièce dans une maison, où elle invitait les gens par 2, 3, 4 personnes, et juste en dire le texte, comme ça.
Alors, quand on écrit un texte et que ce soit porté justement par des... par une comédienne, qu'est-ce que ça fait ?
Alors bah là, je ne peux pas te dire pour hier parce que je n'ai pas entendu, mais je peux te dire pour effectivement en 2014. Et ça m'a, en fait, c'était la première fois où vraiment je voyais l'entièreté d'un livre donné par quelqu'un sur scène, d'un livre à moi. Mmh. Et ça m'a mis une grosse claque, une grosse tarte, parce que le truc assez dingue, c'est qu'avec Gaël, on se connaît pour ainsi dire pas, et on se connaissait encore moins en 2014. Je lui avais confié quelques bouquins à sa demande, elle a fait son truc, et puis elle m'a appelé, elle m'a dit « voilà, je monte tel texte ». Ah oui. Alors, en plus, le bouquin, il n'est pas pensé forcément comme une continuité, c'est un recueil de plusieurs... Et elle a pris le truc en entier, elle a pris comme un bloc, quoi, tu vois. Et le truc... ce qui a été assez dingue, c'est qu'en fait, elle le dit exactement comme moi, je le pense quand je le lis moi, comme je l'ai écrit. Et ça, c'est quand même assez dingue. C'est-à-dire quelqu'un que tu ne connais pas du tout, une langue un peu quand même, un peu pas forcément évidente, tu vois. Elle le dit comme moi, je l'entends quand j'écris. Et ouais, voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce texte, Urge, qui est aussi par ailleurs sans doute une expérience ou une somme d'expérience ou de...
Écoute, alors en fait, il est lointain, je l'ai relu tout à l'heure quand même, donc, parce que je l'avais un peu oublié, forcément il est un peu lointain. Je l'ai écrit à une époque où personnellement je prenais plus... la violence du monde, en tout cas du monde qui m'entoure, dans la gueule. Donc j'étais plus tendu. Qu'il me semblait qu'il y avait une urgence, pas seulement à changer des choses autour de soi ou en soi, mais une urgence que je ressentais, vraiment. J'étais baigné dans un bain d'urgence qui s'est peut-être déplacé aujourd'hui, non pas que je sois moins réceptif aux... Bon, c'est pas les rumeurs du monde, mais aux lignes de tension qui nous traversent. Mais je les exprimerai peut-être plus tout à fait pareil. Exprimer. Je les laisserai sortir peut-être plus tout à fait pareil. Voilà. Après, quant aux circonstances, non, je peux pas te dire là. Mais en tout cas, j'y mélange. Tu vois, comme souvent, le corps, les perceptions, la politique, les amis. La politique, ça veut dire être au monde avec. Enfin, on en parlait encore tout à l'heure avec Élise. On n'est pas des individus isolés, seuls, on n'existe pas. C'est pas un point de vue, c'est pas un... C'est-à-dire que moi, tout seul, j'existe pas. J'existe pas sans les autres. C'est pour moi, vraiment, c'est une image erronée. Enfin, c'est pas vrai. On est vraiment des êtres collectifs, reliés, d'une manière ou d'une autre, de manière même dont on n'imagine pas.
Et donc, un texte, en tant que tel, c'est l'expression de... Comment dirais-je, finalement, l'écrivain devient un peu le catalyseur de tout ça.
Il y a ça, c'est-à-dire, bon, il y a plusieurs choses dans ta question. Déjà, il y a quelque chose d'important et qui fait que ça devient pertinent au micro, c'est que quand j'écris, vraiment ce que j'écris, quand je le relis, j'y comprends à chaque fois des nouvelles choses. Et quand j'écris, c'est une manière de penser qui est complètement différente de quand je parle. Et quand je parle, je me trouve vraiment plus bête, c'est vraiment, tu vois, j'arrive pas à développer la pensée comme des gens sont capables, des philosophes ou même des écrivains, ont une pensée assez claire sur ce qui, sur leur travail, etc. Moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que quand je suis au travail, quand j'écris, il y a une manière de penser qui m'agit et qui fait que dès que je prends de la distance avec le papier, les textes que j'aime bien, je trouve vraiment, j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai écrits et j'y apprends des trucs. Tu vois, c'est quand même un drôle de machin. Et j'y comprends des choses et que je suis incapable de dire, d'exprimer. J'arrive pas à parler de la poésie, j'arrive pas à parler. Tu vois, là, on essaye, non, mais c'est pas évident. Donc déjà, c'est ce premier truc. Le premier
phénomène. Comment vous écrivez, justement ?
Bah, maintenant, j'écris beaucoup à l'ordinateur. Mais, par exemple, pour Aimé Nice, qui est le dernier bouquin, pendant 6 mois, en 2016, tous les matins, j'ouvrais l'ordi et j'écrivais une page avant le café, avant le, tu vois, vraiment réveil. Et des fois, il m'est arrivé dans la journée de rouvrir l'ordi, de retrouver le texte et de ne pas m'en souvenir du tout. Mmh. Et en fait, c'est un moment où j'en avais marre. J'ai beaucoup écrit une poésie hyper dense, avec chaque mot hyper important, quelque chose de super tendu, tu vois, peu de mots, super dense. Et là, j'en avais vraiment marre de ça. J'arrivais plus à lire de la poésie. J'en avais marre d'une espèce de posture, d'intensité un peu romantique, tu vois. Et je voulais écrire des chroniques ou un roman ou un truc un peu plus souple, fluide. Alors, je me suis dit, je vais écrire toujours une espèce de chronique. Bon, j'ai pas réussi et j'ai fait des poèmes. Mais du coup, voilà, pendant 6 mois, tous les matins, j'ai écrit juste. Alors, des fois, j'avais rien à écrire. En fait, le fait de se mettre à la table, bah, ça sort. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Mais à chaque jour, donc pendant 6 mois, chaque jour, j'ai écrit quelque chose. Et après, pendant 2 ans, j'ai corrigé, éliminé, sélectionné. J'avais fait un gros bouquin. Et finalement, j'ai décidé de le passer au tampon comme mes autres livres précédents parce que ça m'obligeait à une sélection draconienne et j'étais obligé de vraiment couper dans le tas parce que je ne peux pas tamponner 300 pages. Quoi. Donc j'ai fait une grosse sélection que j'ai passée au tampon, donc ça m'a pris encore un an ou deux. Et voilà, le bouquin.
Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce texte ou, et presque à la limite d'en lire
Ouais, donc, du coup, bah, là je vais te lire un extrait d'Aimé Nice qui est le dernier bouquin en fait que j'ai fait. Y a quelques poèmes que j'aime vraiment beaucoup dedans et un que je lis en concert et qui est, voilà. Nous sommes des enfants, l'enfance dure toujours et nous ne l'avions pas compris, on ne nous l'avait pas dit. Avançant dans les âges, la force vient et puis elle nous quitte, mais l'enfance est toujours là. Nous sommes des enfants à présent occupés par des tâches importantes, des responsabilités. Mais une fois endormis, nous y retournons. Une fois seul, nous retrouvons ce lieu toujours présent. Enfant, je pensais que les adultes existaient, que l'enfance c'était juste un moment, qu'elle ferait son temps et puis qu'un autre âge adviendrait, que je devais être patient et que viendrait mon tour, ma place, que j'en serais, j'aurais moi aussi un corps grand, un rôle, une importance, des choses graves à faire, à décider. Mais j'attends toujours et l'enfance ne me quitte pas, elle ne passe pas. Et maintenant je comprends qu'elle ne me quittera jamais. Que les adultes existent dans les yeux des enfants et puis se perdent à jamais, mais que reste l'enfance butant ça et là sur des jeux d'adultes. Alors bien sûr, je peux dire « je suis un adulte ». J'ai des enfants, des responsabilités, un travail comme toi, des ennuis, des dettes et un compte en banque. Je peux faire le tour du monde ou de mon quartier, réaliser de grands projets et regarder la télévision. Mais au fond, je reste cet enfant, projeté dans un monde violent et fantastique, entouré de ses rêves et de ses joujoux, de ses délires, comprenant bien ce qui lui arrive, c'est-à-dire la mort. Je suis un enfant avec cela de moins, le temps pour moi. J'ai perdu le temps, je n'ai plus le temps. C'est cela, être adulte, ne plus avoir le temps avec soi. Alors je peux donner la mort, je peux donner la vie, mais je reste un enfant. Et en attendant, je continue à jouer avec les copains et les copines, à faire des câlins et des colères, à courir en fermant les yeux et à avoir peur dans le noir. À regarder, incrédule, ce corps d'adulte qui m'entoure et me protège. Ce corps d'adulte qui m'entoure et me protège et qui fait qu'on me reconnaît et puis qu'on m'aime.
Pourquoi avoir choisi justement ce texte sur l'enfance ?
Choisi dans le bouquin, choisi là pour toi, pour t'en lire.
À l'instant et puis même dans voilà.
Oui, non, oui. Alors, pourquoi je le lis ? Parce qu'en fait, c'est un texte que je lis dans des concerts et du coup, j'ai une habitude de ce texte. Comme ça, je prends moins de risques au micro. Et pourquoi avoir parlé ? En fait, c'est mon grand-père qui m'a dit un jour, il avait 90 ans, il m'a dit « Mais je regarde mes mains et j'y crois pas, quoi. J'ai toujours 30 ans. » Et c'était pas quelqu'un de, c'était quelqu'un de plutôt, enfin, c'est pas quelqu'un qui se livrait. Hein. Et il m'a dit, mais moi, j'ai toujours mon esprit. Et là, je me suis dit, ah oui, il y a un truc quand même étrange qui se passe. Et du coup, quand je parle de l'enfance, c'est pas un âge, mais c'est un état. Bon, c'est relié à un âge, puisque effectivement, il y a des âges qu'on traverse et dans lesquels on connaît cet état. Mais il y a des enfants qui, malheureusement, très jeunes, quittent cet état. Et d'autres qui le quittent jamais, mais c'est plus l'enfance, c'est plus une espèce de, ouais, comme un concept ou un état de curiosité, de souplesse, d'éveil, enfin, tu vois, de pas, quand je dis l'enfance, c'est pas gamin, parce qu'aujourd'hui il y a un truc qui vraiment qu'il faut pas confondre, c'est pas gamin, c'est-à-dire c'est pas, on n'est pas impuissant, on n'a pas besoin des autres pour faire les choses. Parce que ça, c'est une situation dans laquelle, je trouve, on nous met assez « on ». Enfin, « on ».
C'est un état d'ouverture au ouais, monde, ouais, ouais, en fait, voilà. D'une certaine manière.
Ouais. Ouais. C'est pas un état de dépendance ou d'impuissance. Ou... C'est vraiment l'enfance, plutôt que l'enfant, tu vois. Mais ouais, je dirais ça. Et nécessaire et à cultiver, que tu peux perdre, retrouver. Et c'est pour moi, c'est... Et encore une fois, ça peut être lié avec des moments, des événements de l'enfance que tu as vécu, mais pas forcément. Et des fois, chez des enfants, je vois, on se comprend, quoi, c'est assez dingue. Et tu te dis, mais en fait, déjà à 10 ans, tu penses que tu penses, enfin, tu vois, c'est pas qu'on évolue pas, c'est que les âges, ils plongent les uns dans les autres. C'est pas un truc cyclique, c'est ça.
Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce recueil qui est auto-édité, pour le coup? C'est un choix ouais. D'auto-édition.
Ouais. C'est un choix. Bon, en fait, ça a commencé quand j'avais 16 ans. Mm-hmm. J'ai retrouvé des bouquins que je faisais, que je mettais en librairie dans le 18e à Paris où j'habitais. Je fabriquais des bouquins, je les mettais dans des librairies. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Mais je m'en souvenais plus. C'est juste en fouillant dans mes cartons que j'ai retrouvé ça. Du coup, un peu par orgueil. Tu vois, de tout faire soi-même, d'être complètement autodidacte, auto-machin. Mais aussi, en fait, je me suis aperçu que, bon, j'ai le temps de faire les livres et tout. Et en fait, ça a pas mal d'avantages. Déjà, je peux en donner autant que je veux parce que je connais le coût du bouquin. Donc, je m'y retrouve. J'en vends quelques-uns, les autres, je peux les donner. Donc, je peux avoir une diffusion un peu souple, comme je l'entends. Je peux les vendre au concert. Effectivement, je contrôle la gueule du bouquin, tout ça. Bon, mais ça, avec un bon travail d'édition, ça pourrait aussi... Et puis, je les tire au fur et à mesure. Quand j'en ai plus, j'en refais. Si j'en ai marre, je fais un autre. Donc, c'est un mélange à la base d'orgueil, de contrôler le truc jusqu'au bout, mais aussi de souplesse. Ça, c'est, tu vois, je peux venir avec 40 bouquins, je peux en filer, quelque chose que tu peux moins faire quand il est édité. Chaque bouquin a un coût, c'est rare que les éditeurs te donnent... arrière, tu peux les acheter au prix coûtant, quoi, mais tu ne peux pas repartir avec 100 exemplaires. Ouais. Et au final, je fais entre 300 et 600 exemplaires par bouquin, donc en fait, au final, j'en diffuse autant que si j'étais édité. Après, je ne suis pas contre du tout... le fait d'être édité, pas du tout, non, puis ça m'intéresse, je discute beaucoup avec des gens, des éditeurs, des relieurs, des imprimeurs, c'est un monde qui me... Mais c'est vrai que jusqu'à présent, et même sur internet, tu trouveras rien, parce que pour l'instant, j'aimerais que le livre, ça reste un livre, un objet qu'on se donne, tu vois, là je te le file, tu vas partir avec.
Ça veut dire que c'est un objet aussi d'une sorte de présent.
Ouais, c'est un
quelque
présent.
Quelque chose qui marque un présent dans les relations.
Ouais, qui je trouve qui est assez salutaire aujourd'hui, sans en rajouter, hein, mais c'est un objet que j'ai fait à la main, que j'ai fait chez moi, je te le donne, et tu sais que quelqu'un l'a fait, tu connais la personne qui l'a fait, et je voudrais pas qu'on puisse trouver sur un site le contenu du livre, ou je sais pas, voilà.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler justement de... Oui, Emenaïs.
Bah, Emenaïs.
Déjà, tout simplement, le titre. Nous... Ouais.
Bah, c'est la maison où j'habite depuis 9 ans, à Sokoua, sur la côte basque, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est le nom de la maison, et ça veut juste dire je suis ici. Emenaïs, je suis ici. Le basque, c'est une langue que je ne pratique pas. Mais vu que j'habite cette maison et que c'est la maison de famille de ma compagne, j'ai appelé, et vu que j'ai écrit tous les matins les textes depuis la cuisine de cette maison qui s'appelle Aimé Nice et que je regardais par la fenêtre et j'écrivais ce qui se passait, tout naturellement, je l'ai appelé comme ça.
Est-ce que vous nous liriez un... C'est un livre aussi, un ouvrage avec des illustrations, pas des illustrations, mais des... Alors, c'est quoi
des... C'est des gravures de Thomas de Broissia, qui est un sculpteur, sculpteur de marionnettes, sculpteur, qui habite à Nantes, et qui m'a fait des gravures sur lino, qu'on a intégré au bouquin. Faire passer par ses poumons tout l'air de la petite chambre, en respiration successive. Ainsi, filtrer puis recracher quelque chose de soi. Respirer encore, s'évaporer petit à petit. Enfin, se sentir présent et diffus dans la pièce. Un nuage contenu par les murs, les parois. De plus en plus, le lent déplacement des masses d'air nous chamboule. Leurs mouvements nous agitent et nous dansons bientôt les courants d'air. De grosses bulles s'élèvent du sol pour s'écraser au plafond et nous rêvons. Et rêver remue l'air comme lever un bras déclenche des tourbillons qui se propagent, éclatent et se multiplient en roulant sur les murs. De gros paquets d'air se décrochent de la fenêtre et tombent dans un bouillon épais et lourd qui recouvre le tapis. Puis l'air remonte en larges bulles vers les hauteurs de la chambre. Nous respirons et nous sommes faits des mouvements de l'air contenu dans la petite chambre. Des orages et des orages, des tempêtes et des nappes sereines.
Merci. Quels sont les auteurs, les écrivains qui voilà, que vous aimez, qui vous influencent?
En fait, je n'ai pas d'auteur. Là, je relis les vieux poètes chinois du 4, 5, 6e siècle. Et c'est toujours aussi puissant et ça traverse les âges et les traductions. Donc c'est... mais en fait, quand j'étais ado, il y avait la bibliothèque de la rue de Clignancourt à côté de chez moi, bibliothèque municipale et gratuite. Et j'ai lu tout le rayon de poésie française. Il était énorme. J'ai tout lu entre 14 et 18 ans, quoi.
Qu'est-ce qui vous attirait justement dans la poésie voilà.
Ben, ça dépend des âges, ça a évolué, mais notamment. Ce qui m'attire toujours, c'est-à-dire à travers des mots, en fait, il y a une énergie, une vibration, une musique, une voix, ou ce que tu veux, qui te percute et qui te fait comprendre des choses d'une autre manière que la compréhension mentale de l'explication. Tu vois, qui te fait comprendre par un espèce de ressenti intellectuel, tu vois, un mélange. C'est un ressenti intellectuel, émotionnel en même temps. Je ne sais pas si c'est très clair, mais des fois, je capte des trucs sans vraiment... les comprendre, je les capte et ça épaissit ma façon d'être d'être au monde quoi en fait. Alors ça de rencontrer des voix et puis c'est aussi que j'ai du mal à lire les gros livres alors que quand c'est court et un peu dense, je lis une page et puis je peux poser le livre pendant une heure et je suis nourri.
Vous êtes musicien par ailleurs.
Ouais.
Dans l'écrit. Qu'est-ce qui lance le texte? Qu'est-ce qui l'initie? Et est-ce que c'est le rythme, la mélodie?
Non, alors c'est le son. Alors, c'est marrant que tu dis ça, parce que souvent, il y a une phrase que j'appelle une clé, une phrase qui vient au début du texte et dont tout découle. Et souvent, je la retire parce qu'elle n'est vraiment pas intéressante, je trouve. Mais souvent, il y a une phrase au début, une espèce de ritournelle, et tout découle de ça. Et en fait, le truc se construit. Je n'ai pas le plan en avance, mais des fois, le truc se construit. Et en fait, il est en train de se dire un truc sous mes yeux que j'apprends, que je rencontre, que je reconnais, qui me surprend. Donc souvent, c'est un son, en fait. C'est vraiment le son de la langue. Enfin, la langue, c'est du son. Alors, même quand c'est écrit, c'est ça qui est un peu dingue. Par exemple, je lisais des traductions de vieux poètes japonais. Et en fait, bien que ce soit des traductions, tu sens encore le son de la langue. Tu vois les images. Tu vois encore les images, tu as les trucs qui apparaissent, tu entends la voix de la personne qui a écrit, et tu dis « Ah ouais, c'est fort parce qu'à travers les âges, à travers les traductions, on a réussi à garder l'énergie du son. » Donc pour répondre à ta question, c'est plus le son des mots et ce que chaque son appelle comme sens et comment ça s'articule, et les articulations entre eux.
Il n'y a pas de plan prédéfini
jamais.
À l'écriture. C'est...
Jamais. Et c'est un truc qui tourne en boucle et qui vient et... Et là, tu vois, au dos des ménages, j'ai juste mis une petite phrase qui m'est venue en rêve une nuit Et pendant le rêve, je me suis dit, oh, il faut que je m'en souvienne, il faut que je m'en souvienne. Mais je ne la comprends pas. Et là, vas-y, dis-la.
C'est tout laisser vivre à des années-lumière de la vie.
Et je ne la comprends pas, mais je sens que c'est balèze, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et je me dis, bon, c'est intéressant. Alors.
Est-ce que vous pourriez nous parler, là, on a un autre livre qui s'intitule, qui s'appelle La Totale. Alors, est-ce que c'est un best-of ou c'est vraiment le titre du livre?
Ça, c'est La Totale en stéréo, parce qu'il y a aussi La Totale en mono, tu vois, La Totale en stéréo. Ça veut dire que c'est imprimé sur les deux pages, droite et gauche. Et en fait, non, c'est pas... En fait, c'est le recueil de livres que j'avais mis en page et pas édité ou très peu tiré, de poèmes et de livres, de livrets que j'avais corrigés, mis en page, qui étaient prêts à être édités, que j'avais jamais fait, ou que j'ai fait à très peu d'exemplaires, que j'ai réunis dans un gros bouquin. Donc, il y a que Urge, dont on parlait au début, qui est présent dans ce livre et qui est présent dans un autre livre. Et sinon, tous les autres, c'est des espèces d'inédits ou quasi... Donc c'est pas, tu trouveras pas ces textes dans d'autres livres.
Vous nous en liriez.
Une escouade de petites statues menhirs qui se déplacent en grommelant avec leurs petits bras collés à leur large corps de pierre. Elles ont des tatouages de pierre et des bretelles de pierre et des cheveux de pierre. Et elles se déplacent en pivotant sur elles-mêmes, un coup à gauche, un coup à droite. Elles se déplacent en portant un peu de terre sous leurs pieds. Et de petits tremblements. On dirait qu'elles ont froid. Elles se dirigent quelque part. S'agit-il d'un exode? On voit aussi de très vieilles femmes à la plage assises sur des chaises en plastique ou des fauteuils de jardin et qui regardent la mer. Elles ne nous voient pas puisqu'elles regardent la mer. Elles sont nombreuses et recouvertes pour la plupart d'un large plaid ou d'un grand châle qui leur passe dessus la tête. Couchés dans des vitrines, des squelettes de chevaux plusieurs fois millénaires qui n'attendent qu'un signal. Ils sont couchés contre le sable rouge, auprès de squelettes humains, entourés de tout un tas d'armes et de bijoux et de bouteilles en terre cuite et de grosses massues, et ils n'attendent qu'un signal. Laissez venir les ombres. Recevoir la caresse de leurs longs bras, longs de quelques siècles. Regarder et rire de ces statues menhirs, de leur drôle d'allure plusieurs fois millénaires. Nous savoir présents à cette pierre qui semble ne pas vibrer. Connaître la lenteur des arbres, aux bras longs de quelques siècles, et leur voix très ralentie, si basse qu'elle nous parle aux pieds que nous avons nus dans nos chaussettes.
D'où vient l'idée? C'est pareil, une phrase qui est...
Ouais, non, mais là, c'est une journée que j'ai passée à Rodez, au musée Fenaille. Et il y a des statues menhirs, je ne savais pas du tout ce que c'était, c'est des espèces de stèles, de stèles sculptées en forme humaine, tu vois, mais on dirait des espèces de trucs, je ne sais pas, japonais ou je ne sais pas d'où, des yokai. Et en fait, on en retrouve en Aveyron, enfin, il y a tout un parcours jusqu'en Galice, il y a tout un parcours où on en retrouve, et c'est apparemment un truc d'étude récent, enfin, on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est. À quoi ça servait. Et il y a une vingtaine de statues menhirs au musée Fenaille à Rodez, au troisième étage. C'est hallucinant. Et elles sont toutes là, elles te regardent. Elles sont assez mignonnes. Il y a un truc un peu dessin animé, où, tu vois, un truc un peu rond, doux. Et en même temps, c'est des guerriers, des guerrières. C'est un drôle de truc. Enfin, il y a des armes, il y a des... Tu vois,
ça, ce texte-là est inspiré, justement, de...
Ouais, des vitrines que j'ai vues. Alors, il y avait des vitrines avec un cheval et un guerrier mort. Enfin, tu vois, ouais, des vitrines que j'ai vues de ces vieilles pierres au musée Fenaille, à Rodez, ouais.
Alors, justement, ce livre Total, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce que vous développez? Quels sont les textes? Est-ce que c'est...
Voilà. C'est un recueil de recueils. Il y a aucun. Alors, en fait, j'arrive pas à faire. En fait, je me demande toujours c'est quoi un livre. Toujours aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'un livre. Est-ce que pour faire un livre, il faut une idée qui tienne du début à la fin, comme il semblerait chez beaucoup d'éditeurs ou même d'auteurs. Donc, ça veut dire un thème qu'on développe, ça veut dire une idée qui tend, une tension. J'y arrive pas à ça. J'arrive pas à organiser l'écriture autour d'une tension du début, et j'arrive pas à faire de romans, j'arrive pas à faire d'essais, tu vois.
Donc, recueil.
Ouais, c'est des trucs épars que je rassemble, dont j'agence l'enchaînement, avec en prenant en compte l'impression que te donne l'un qui va orienter la lecture que tu auras du suivant. Donc ça, j'y suis attentif, comme dans la musique, comme dans un set de concert ou quoi. Si tu mets un morceau très bruyant et après quelque chose de très calme, l'oreille sera déjà pleine, elle le prendra différemment que si tu fais l'inverse, hein, quelque chose de très calme et de très bruyant derrière. Donc ça, j'agence, j'organise des choses éparses, souvent écrites dans une période assez proche, donc il y a une espèce d'unité de d'écriture. Après, non, je ne saurais pas dire qu'il y a un thème ou qu'un... Ou... Un livre, c'est une manière de plier une ligne. C'est tout pour moi.
Un livre, c'est une manière de plier une ligne.
De rendre une grande ligne très longue, très 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 longue, de plusieurs kilomètres, de la rendre transportable. Mm-hmm. Tu vois, en la pliant en accordéon, en la compactant, en la coupant, en la faisant rentrer dans une page. En fait, c'est une ligne, c'est comme une mélodie, c'est un truc... Après, tu peux faire un peu d'harmonie tu peux faire sonner plusieurs trucs en même temps, mais c'est plus compliqué. Mais c'est une ligne, tu suis. Alors, on a appris qu'à la fin de la ligne, on revenait au début, c'est une convention, mais il y a d'autres écritures, boustrophédon, où quand on arrive à la ligne, ça s'inverse, ça se retourne. Il y a plein de conventions qui ont existé. On a gardé celle-ci, le truc carré, avec de gauche à droite, en tout cas pour nous, de haut en bas, et ça, quand ça s'arrête à la fin, tu reviens au début. Mais en fait, c'est une manière de replier une parole qui se déroule. Une ligne, c'est une parole qui se déroule. Une parole qui se déroule, c'est une ligne. C'est un long fil comme ça. Et on a trouvé une manière de le plier. Il y en a d'autres qui l'ont mis sur des manuscrits, sur des rouleaux. Il y en a qui le dépliaient comme ça. Il y en a qui en faisaient des tablettes. Bon. Et en fait, c'est juste une manière d'organiser, de replier.
Est-ce que ça joue aussi le fait... Vous, par exemple, vous faites des livres vous-même. Est-ce que ça joue justement sur l'écriture, sur le fait d'écrire ?
Sur le fait d'écrire, non. Sur la sélection des textes, oui, parce que quand je les tamponne, donc lettre par lettre à la main. Donc là, à un moment, je suis obligé de choisir des textes qui me plaisent vraiment et de les danser.
Il y a de l'enjeu, du coup.
Ouais, ça va être un peu fatigant, donc je peux pas mettre trop de textes. Et non, sur l'écriture, la seule chose qui peut influer l'écriture, c'est de penser que ça va être lu. Voilà, c'est la seule chose avec laquelle je me débat, que je j'évacue pas forcément, parce que je pense que ça fait... Je serais malhonnête de dire j'écris en dehors de tout destinataire. C'est pas vrai. J'écris pas pour être lu mais avec destinataire. Alors il y a des gens qui peuvent écrire comme ça pour le cosmos. J'arrive pas. Moi j'écris pas pour être lu, mais je sais que moi, faisant les bouquins, à un moment, ça va devenir un bouquin et ça sera potentiellement lu. Donc effectivement, l'adresse, ça joue sur l'adresse peut-être. Voilà, sur mon adresse.
Vous emmenez aussi le livre vers les gens ?
Bah ouais, c'est vu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est moi qui les fabrique, donc je sais combien ça coûte. Enfin, en gros, c'est pratique.
Le fait de faire une maison d'édition, une édition, ça, justement, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous intéresse, par ailleurs ?
Pas du tout.
D'accord.
C'est juste l'outil, savoir être capable de faire un livre. Après, j'ai édité quelques personnes ponctuellement qui me l'ont demandé, avec qui on a fait un bouquin, mais ça a été très ponctuel. Et c'est juste le savoir-faire déjà qui m'intéresse et d'être capable. Potentiellement capable de créer cet objet, de le diffuser. Voilà, donc pour une maison, pour moi, une caravane d'édition, je sais pas, comme une cabane d'édition, une tente d'édition.
Où est-ce qu'on peut retrouver vos livres, justement ? C'est en fonction de vous, de là où vous êtes.
Ça se complique, c'est les limites du truc. C'est que j'ai pas de site, je fais plus de dépôt en librairie. Je me déplace avec, dans les concerts ou par hasard ou... Pour les gens qui écoutent, là, peut-être contacter la Maison du Livre, à la rigueur, si vraiment, vraiment, eux, ils vous fileront mes coordonnées. J'en envoie par la poste. En fait, c'est un réseau qui se fait hors réseau Internet. C'est une espèce de réseau. Les gens se filent des bouquins, s'échangent, m'appellent. Ah, machin m'a donné ton numéro. Bon, c'est pas très, très, très efficace, mais c'est une certaine... C'est une certaine existence.
Bien, merci, Benjamin Collin, pour donc cet entretien à Becherel. Eh bien, autour de différents extraits de livres, Emenaïs, La Totale.
En stéréo,
que vous avez pu nous lire durant cet entretien. Merci à vous.
De rien.